studio de la Calaisonde, Julien Giulicelli, bonjour.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en droit public à l'université de Bordeaux. Alors, tu n'étais pas hier soir devant à ce rassemblement.
Si j'y étais, mais à la fin. Je suis toujours en retard.
Est-ce que tu avais davantage d'attentes que Gilles sur cette décision du Conseil constitutionnel?
Alors, j'ai évidemment souri. Je ne le dirai pas en ces mêmes termes, mais je partage un petit peu l'avis... L'avis de cet intervenant.
Alors peut-être on va reprendre un peu les choses en l'ordre. Peut-être d'abord sur le Conseil constitutionnel, comment ça marche. Il y a 7-9 membres. Alors je les ai listés, Laurent Fabius, Michel Pinault, Corinne Luquiens, Jacques Mézard, François Pilet, Alain Juppé, Jacqueline Gouraud, François Sénerce et Véronique Malbec. Alors il y en a deux qu'on connaît, Laurent Fabius, Alain Juppé. Les autres, c'est qui et comment ça marche ce machin-là?
Alors en fait, il y a une avancée entre guillemets. Maintenant, on compte 3 femmes sur 9. C'est plus le cas, mais il y a aussi des membres de droit qui sont les anciens présidents de la République. Il faut savoir qu'ils sont nommés, les 9 membres qui ne sont pas membres de droit, qui ont un mandat de 9 ans non renouvelable, sont nommés par 3 autorités politiques, qui sont respectivement le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et que sur ces 9 membres actuels, 7 ont été ministres ou premiers ministres. Dit autrement, et il y a parfois de conflits d'intérêts, Laurent Fabius, avant qu'il ne soit nommé par le président Hollande, il était ministre des Affaires étrangères, donc il a eu ensuite, quand il a été désigné président du Conseil constitutionnel, à délibérer sur la loi dite Travail, El Khomri, en vérité écrite à 4 mains, concours du plus libéral entre Valls et Macron, et il ne s'est pas déporté. Donc il appartenait quelques semaines auparavant au gouvernement Valls, et il va juger ensuite donc, au Conseil des ministres, bien sûr, cette loi avait été débattue.
On entendait dire aussi qu'Alain Juppé, lui, avait voulu faire passer une réforme des retraites en 95 qui n'avait pas pu aboutir.
Absolument.
Et que là aussi, ça aurait pu fausser son appréciation des choses.
Absolument, et dans d'autres juridictions constitutionnelles véritables, que ce soit la cour de Karlsruhe en Allemagne ou la cour constitutionnelle italienne à Rome.
Qui sont comparables en termes de pouvoir au Conseil constitutionnel français ?
Qui sont comparables, oui. Quant au jugement de conformité à la Constitution des lois, elles sont respectées, elles sont connues. En Italie, on considère que deux institutions sont particulièrement respectables, c'est le président de la République et la cour constitutionnelle. Ils sont respectés, on sait quelles sont les décisions, alors que là, on apprend grosso modo, quelles sont les missions, à travers au moins un avantage pédagogique, quelles sont les missions du Conseil constitutionnel?
Alors, la première décision, là, sur laquelle dont on a beaucoup parlé, du Conseil constitutionnel sur ces questions de réforme des retraites, c'était le 14 avril, sur justement la conformité de cette loi. Alors, il y avait plusieurs arguments avancés par les députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel, notamment la question d'un cavalier législatif, de est-ce que cet article 7 repoussant l'âge légal était bien à sa place dans ce texte-là. C'est ça, comment toi, tu avais pu... Alors, peut-être rappelle-nous un peu déjà cet épisode-là.
Alors là, non, il ne s'agissait pas relativement à l'article 7 d'un cavalier législatif ou d'un cavalier social, parce que là effectivement, ça rentrait dans le cœur du projet. Les cavaliers sociaux, qui n'avaient rien à faire dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale, c'est par exemple l'index senior. Il n'y a rien qui est relatif au financement. C'était des mesures qui voulaient adoucir la potion amère, qui seront reprises dans un projet ultérieur.
Donc qui ont été censurées le 14 avril.
Qui ont été censurées pour la forme, et qui seront reprises et qui seront déclarées conformes. Alors, les principaux arguments des différentes roquettes de la NUP, du Front National, j'arrive pas à dire RN, pour moi ça reste toujours le Front National, étaient dans les deux cas des arguments de qualité relatifs au détournement de procédures législatives. Je m'explique, le Conseil constitutionnel a validé ou invalidé une loi pour savoir si, comment dire, les règles du jeu de la Constitution ont été respectées institutionnellement, mais là ça ne nous concerne pas, a fait respecter les droits fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et les droits économiques et sociaux de 1946. Ça, ce sont ses missions. Là, il ne s'agissait pas pour le Conseil, et ça c'est tout à fait normal, de dire non politiquement, le relèvement de l'âge de la retraite, je n'ai rien à dire, et je suis d'accord. Je suis personnellement, et ce n'est pas le débat ici, complètement hostile à cette réforme, qui est pour moi une contre-réforme de régression sociale. Mais un gouvernement est légitime à appliquer la politique pour laquelle il a été élu. En l'occurrence, Macron, même si c'est... Même si je ne crois pas qu'il ait été élu là-dessus, c'était un contre-vote dont il se sentait obligé, disait-il au Champ de Mars. Bon, on voit ce qu'il en a été. Mais peu importe, s'il avait eu la majorité pour ce faire, eh ben, il n'aurait pas utilisé l'article 49 alinéa 3. Alors qu'est-ce que c'est ? Quel est l'argumentaire de ces requêtes ? C'est de dire que par rapport aux lois de financement de la sécurité sociale, il y a un détournement de procédure, premièrement. Parce qu'on utilise une loi rectificative. Alors même qu'avait été prise une loi en décembre, deux mois après, en février, on dépose ce projet de loi rectificative de financement de la sécurité sociale. Ce qui permet, première chose, d'activer l'article 47.1, qui donne des délais contraints, 50 jours, j'entends dans les détails, 50 jours pour que le Parlement adopte ou n'adopte pas.
Donc une procédure accélérée.
Absolument, accélérée. Et si tel n'est pas le cas, c'est quand même assez énorme, et on ne passe pas par une loi de validation, le gouvernement, il ne l'a pas fait, puisqu'il a utilisé l'article 49 alinéa 3, peut imposer ces mesures par ordonnance, qui sont des mesures gouvernementales, ce qu'on appelle en jargon des actes administratifs réglementaires, sans passer par la case Parlement. Donc là, première chose, il utilise, comme tu viens de le dire tout à fait exactement, une procédure accélérée. Deuxième chose, il utilise d'autres moyens constitutionnels. L'article 44, c'est-à-dire le vote bloqué. C'est quoi le vote bloqué ? C'est bon, on ne va pas entrer article par article, amendement, sous-amendement par sous-amendement, à un moment donné, basta. On va voter sur l'ensemble ou une partie, et avec les amendements que moi, gouvernement, j'accepte. Donc j'accepte mes propres amendements, et j'accepte, dit autrement, les amendements de ma propre majorité, s'ils me conviennent. Tous les autres, je les balais. Alors même qu'ils ont pu être adoptés auparavant. Au Sénat, on a utilisé une disposition assez méconnue du règlement interne du Sénat, intérieur du Sénat, sur une limitation du temps de parole. À 2 minutes, si je me souviens bien. Bon. Donc, ce n'est pas en soi... Toutes ces armes qu'on appelle du parlementarisme rationalisé, pour dire autrement, pour rendre raison au Parlement et pour faire en sorte que le gouvernement soit un peu plus discipliné par mauvais souvenir, à tort ou à raison, relativement à l'instabilité gouvernementale des 3e et 4e républiques. C'est pas qu'il soit en soi illégitime, quoique je les réprouve. Hein. Il n'y a pas dans une démocratie ailleurs des instruments aussi radicaux que le 49 alinéa 3 qui permet de faire passer en force un texte, alors même qu'il n'aura pas été voté. Et j'y reviendrai.
Tous ces outils sont légaux, mais est-ce que le Conseil constitutionnel aurait pu dire, vu l'importance
il le dit,
de ce texte...
Et il le dit, paradoxalement, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Certes, la procédure est inhabituelle. L'accumulation de tous ces moyens constitutionnels en soi légitime. Mais, bon, il dit, mais finalement, contrairement à une jurisprudence qu'il avait lui-même élaborée en 2005, sur la clarté et la sincérité des débats, ça n'a pas affecté la sincérité des débats, dès lors que ça a pu être discuté. Alors, il y a un parlementaire député qui fait un bon travail, il s'appelle Jérôme Guedge du PS, et qui a débusqué le truc sur le fait que les fameux minima à 1000 euros, il a demandé des documents à Bercy, ça ne concerne pas des centaines de milliers de personnes, mais tout au plus entre 10 et 20 000. Le Conseil constitutionnel a cet argumentaire particulièrement truculent qui est de dire finalement ça a été discuté. Alors, il y a une collègue qui écrit dans une tribune dans Le Monde, puis dans le monde diplomatique, grosso modo, il aurait mieux fait se taire. Parce que s'il n'avait pas soulevé le vif, ça n'aurait pas été discuté. Alors qu'est-ce qu'aurait dit le Conseil constitutionnel ? Bon. Et en fait, au contraire des juridictions européennes que je viens de citer, italiennes et allemandes, qui sont particulièrement créatives et inventives, il y a une lecture, je veux dire, particulièrement étroite ou stricte, en disant, grosso modo, s'il y a ces instruments qu'ils utilisent, on les a utilisés, très bien. Bon. Et le Conseil ne fait pas ce qu'on appelle, en jargon, une lecture systémique du texte constitutionnel, c'est-à-dire, relativement à la globalité du texte, qui a pour objet de garantir une procédure honnête, avec une clarté et une sincérité des débats. Donc, tel un cycliste pris le nez dans le guidon, il va dire, ça... l'article 49 alinéa 3, il existe. L'article 47.1, il existe. Je reviens juste sur l'article 47.1. Pourquoi ce délai contraint ? Parce qu'il faut, au 31 décembre, sur une loi initiale de financement de la sécurité sociale, comme pour la loi budgétaire... Exactement.
Là, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas cette...
Il n'y avait pas ça. Grosso modo, c'est pour, en plus, parce que depuis 2008, l'article 49 alinéa 3, on ne peut utiliser que pour les lois budgétaires ou de financement de la sécurité sociale, d'une part, mais... Et pour une autre loi, projet de loi, sur un autre champ, mais une seule fois. En revanche, sur les lois budgétaires ou de financement de la Sécu, on peut l'utiliser, et on l'a vu, autant de fois que nécessaire. On l'a vu par rapport à la loi budgétaire. Et là, première chose. Deuxième chose, la loi de financement rectificative, grosso modo, c'est financer la sécurité sociale pour l'année. Alors, il peut y avoir des lois de financement rectificatives, comme par exemple un gouvernement d'une autre couleur politique, avec un président de la République et alternance. Bah là, évidemment, on n'a pas les moyens de sa politique si on ne rectifie pas la loi prise quelques mois avant.
Là, c'est les mêmes, donc ils auraient mettre déjà ça dans le texte
tout
en
à
décembre.
Fait. Et exactement, première chose. Et deuxième chose, la réforme particulièrement régressive, encore une fois, elle ne va pas s'appliquer que sur cette année, depuis qu'elle est promulguée, c'est-à-dire à la va-vite à 3h du matin, après la décision...
Le 15
au matin, à 3h, comme s'il y avait une sorte d'anxiété de la part du
pouvoir. Alors ça, cette question-là, le fait que ce soit un article qui vise la continuité et le long terme, qui soit inséré dans un projet de loi rectificative, le Conseil constitutionnel ne dit rien là-dessus.
En soi, c'est contestable. Ben oui, bien sûr, il balaye ça d'un revers de manche et il dit... Bon, mais vos arguments, ils ne sont pas complètement infondés, mais non, ce n'est pas substantiel. Et sur le RIP hier.
Alors voilà, on va revenir sur l'aspect est-ce que c'est du droit, est-ce que c'est de la politique, cette manière-là de faire du Conseil constitutionnel. D'abord, on va avoir les deux autres décisions. Donc il y a d'abord la décision sur le référendum d'initiative partagée rendue en même temps le 14 avril, que tu avais regardé. Qu'est-ce qui était dans les motifs invoqués par le Conseil constitutionnel
c'est un petit peu jésuite ou casuistique, mais... Elle est beaucoup moins contestable, cette décision. Celle d'hier est absolument contestable. Qu'est-ce que dit le 14 avril le Conseil constitutionnel ? Il dit, en fait, il n'y a pas, en jargon de quid novis, il n'y a pas d'élément nouveau. C'est-à-dire que ceux qui ont déposé cette proposition de loi disent, on sanctifie la retraite à 62 ans. Et il dit, au moment où je me prononce, c'est l'état du droit actuel, c'est 62 ans. Puisque la loi du relèvement à 64 n'est pas encore promulguée, puisqu'il se prononce là-dessus. Donc au moment où cette proposition de loi est enregistrée à mon greffe, ça ne change rien.
Donc il faut dire que le RIP demandait d'organiser un référendum sur le maintien de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et donc ça n'avait pas de sens de le demander, puisque c'était encore le cas dans le texte.
C'est ça. Cet argumentaire, il est strict. Mais là, je ne le critique pas.
C'est carré, juridiquement. Voilà,
c'est carré. C'était un article unique, c'est sanctuarisé, la retraite de 62 ans.
Alors, deuxième demande et deuxième décision rendue hier sur cette même organisation d'un RIP. Et là ?
Alors, les parlementaires, peut-être mieux conseillés, parce que la première proposition a été hâtivement rédigée. C'est un article unique, encore une fois, sur la sanctuarisation à 62 ans. Là, il y avait une proposition de loi très courte constituée de deux articles. C'est-à-dire que dans l'article 2, on dit, c'est 62 ans, et on propose un financement. C'est-à-dire le relèvement de 9,2 à 19,2 de l'imposition CSG pour les revenus du patrimoine. Donc, autrement, on taxe une partie du capital. Bon, qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel ? Il dit, mais ça n'abonde que l'une des nombreuses branches de la sécurité sociale. Dit autrement, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant, refait d'autres copies, quoi.
Donc, le financement, la partie financement.
Voilà, la partie financement, c'est pas, à travers les lignes, donc on comprend cela. Et en plus, ce que je déplore pour le Conseil constitutionnel, c'est que la motivation est particulièrement faible. Encore une fois, je reviens sur l'Allemagne ou l'Italie, ils font un effort pédagogique. C'est du jargon, ensuite est traduit en France, enfin en italien ou en allemand courant, par un communiqué de presse. Le communiqué de presse d'hier, publié sur le site du Conseil constitutionnel, est particulièrement indigent. C'est-à-dire incompréhensible pour un non-juriste. Incompréhensible. Je t'invite à le lire.
Je n'ai pas fait, j'avoue.
C'est absolument incompréhensible. Et en fait, quel était l'intérêt du RIP ? Alors le RIP, c'est la dernière révision constitutionnelle de 2008. À croire qu'on n'y croit pas beaucoup, parce que pour que ça entre en application, il fallait une loi organique. C'est-à-dire une loi un petit peu supérieure, avec une procédure, avec une majorité renforcée, j'entre pas dans les détails, qui a été prise 5 ans après, en 2013. Elle n'a été activée qu'une seule fois sur l'aéroport de Paris, la privatisation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Très rapidement, il faut réunir un cinquième des parlementaires, députés et sénateurs confondus. 577 députés, 345 sénateurs, on arrive à 922, ça nous fait, si on arrondit, 185 parlementaires. Il y en avait 250. C'est pas si simple, parce que en 2017, vu la bérésina pour les députés de gauche, c'était ric-rac pour obtenir les 185. Il a fallu l'apport de quelques députés de droite, dont par exemple le truculent Jean Lassalle. Et c'était juste. Bon.
Donc ça, c'est la première étape. Il faut un certain nombre de parlementaires.
Il faut un cinquième des parlementaires, députés et sénateurs.
ce qui a été le cas.
Ce qui a été le cas. Ensuite, il faut que... Alors, référendum d'initiative partagée, en vérité, c'est abusif. C'est d'abord un référendum d'initiative parlementaire soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. En Italie, qui est un véritable référendum d'initiative citoyenne, il faut 500 citoyens électeurs inscrits sur les listes électorales. 500 000, pardon, pas 500.
Ah, 500 000.
500 000, 500 000. Soit, à population comparable, à peu près un dixième, puisque là, ça aurait été 4 900 000 environ. Donc, c'est énorme.
En France, ça fait
4 900 000. Il y a 49 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Bon. C'est... Alors, vu l'impopularité de cette loi...
Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est, il faut recueillir des signatures...
Deuxième étape. Bon. Voilà. Alors, une fois, bien sûr, que le Conseil constitutionnel a avalisé...
Voilà. Donc, en fait, je voudrais dire, deuxième étape, c'est avalisation par le Conseil constitutionnel. Troisième étape. Signature donc, de 4 900 000 citoyens, électeurs. Quatrième étape.
Donc, il n'y a pas de référendum tout de suite. Quatrième étape, il faut ensuite que dans les 6 mois... l'Assemblée nationale ou le Sénat ne soit pas saisie de cette proposition de loi pour qu'enfin le président de la République soit obligé, là il a ce qu'on appelle compétence liée, il ne peut pas dire, faire autre chose comme mm-hmm. quand il promulgue contrairement à ce qu'ont dit certaines journalistes dans des radios pourtant de service public, il était obligé de promulguer de toutes les façons ça c'est un Chirac, Chirac n'a pas abandonné la promulgation de la loi CPE, il a promulgué puis après il a dit pas décret, pas l'application ça rentre pas en œuvre quoi, donc ah. Il est obligé. Et mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une des deux assemblées se prononce, soit pour, soit contre, ben c'est bon, c'est circulé, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de référendum. Alors l'avantage, finalement, il est politique.
Donc les assemblées pouvaient se prononcer et dire non, on est contre, et c'est
et c'était fini. Plus de référendum.
Donc les 4 900 000 signataires...
On s'en fout, voilà. Ouais. C'est à la trappe. Mais là où c'est en revanche intéressant, c'est que le juriste a trop propension à rester sur le droit et le droit pur. Et en particulier, le droit constitutionnel, c'est aussi un droit politique. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est pas sur la procédure, qui est quand même, comme je te le disais avant qu'on entre en antenne, particulièrement une usine à gaz. Hein, mm-hmm. dire, c'est fait pour complètement dissuader. D'ailleurs, ça n'a pas marché pour ADP. Ça n'a pas marché, oui et non. Juridiquement, ça n'a pas marché. Mais finalement, même si les partis de gauche n'ont pas fait vraiment leur travail, parce qu'ils n'ont pas trop médiatisé l'événement, il y a eu quand même plus, je ne me rappelle plus le chiffre, plus d'un million, ce qui est quand même considérable. Mm-hmm. J'avais signé. 1 million, 1,5 million, je ne sais plus. Et ben, les actionnaires potentiels qui auraient racheté ADP, Aéroport de Paris, ils se sont dit, socialement, c'est un petit peu chaud bouillant, est-ce qu'on ne va pas perdre des billes? Donc finalement, le projet de privatisation n'a pas vu le jour. Donc c'est politiquement que ça aurait permis de continuer la mobilisation. J'espère qu'elle ne va pas s'essouffler, pour l'instant, l'intersyndicale reste unie.
Alors, c'est la question que j'allais te poser sur justement le dernier outil qui maintenant est envisagé par les opposants à cette réforme, c'est la proposition de loi déposée par le groupe Liotte à l'Assemblée nationale, qui sera examinée le 8 juin prochain, et qui vise à abroger l'article 7 de la réforme des retraites, en repoussant l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que ça a une chance d'aboutir, ou est-ce que, là encore, c'est plus un moyen de continuer à faire parler et à maintenir une mobilisation actuellement?
Alors, si tu me permets, je reviens juste, parce que c'est dans le continuum, sur l'activation de l'article 49 alinéa 3, il faut savoir que ne se prononce sur la motion de censure qui est en réponse et en contre-attaque que à la majorité renforcée majorité absolue des membres, non pas des membres présents dans l'hémicycle mais des membres, ça veut dire 289 députés aujourd'hui, parce qu'il y en a deux qui ont été invalidés ou trois, 287, peu importe. Ça veut dire que tous les autres, ils ne participent pas au scrutin. Dit autrement, ceux qui auraient été pour sont amalgamés avec ceux qui se seraient abstenus. Mm-hmm. Qui, parce qu'ils ne censurent pas le gouvernement, puisqu'ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils ne participent pas au débat. Quand je dis ceux qui s'est abstenus, même dans la majorité, y avait des voix discordantes. Alors, ils ne peuvent pas voter contre, sinon ils basculent dans l'opposition, comme pour une loi budgétaire. Mais ils peuvent s'abstenir. Mm-hmm. À telle enseigne que finalement, à 9 voix près, ça aurait pu passer, la motion de censure, ce qui aurait été historique depuis 1962, aucune motion de censure n'a abouti au renversement du gouvernement, et donc au rejet consécutif du projet de loi. Alors sur...
Là, qu'est-ce qui va se passer le 8 juin?
Alors le 8 juin, donc, profitant de ce qu'on appelle une niche parlementaire, le groupe Liotte, donc réunissant des députés de centre-droit et des députés corse nationalistes et d'autres de l'outre-mer, avec ce député Charles-Henri de Courson, qui a fait un travail remarquable, hein, je dois le dire. Bon, comme tu viens de le dire, on fait ce qu'un Parlement fait, il peut le défaire. Mm-hmm. Donc, la proposition de loi vise à abroger la loi promulguée le 15 avril. Et c'est pas impossible, parce que si le gouvernement a eu peur et c'est pour ça qu'il a activé le 49.3 de la réponse de l'Assemblée nationale sur la loi, sur le projet de loi qui lui était soumis, c'est bien qu'il se disait peut-être que ça ne sera pas voté. Bon. Alors la proposition de loi, on fait ce pari de remettre sur le métier l'ouvrage, et ainsi, finalement, de défaire ce qui a été fait quelques mois avant.
Et là, la règle ne sera plus la même que lors de la motion de censure. Ce sera la majorité des voix exprimées. Est-ce qu'il y a une majorité pour ou contre ?
Voilà, par exemple, là, 577 députés, il n'y a que 400 députés dans l'enceinte parlementaire. Il y en a 203, disons, qui votent pour la proposition de loi, elle est adoptée. Mm-hmm. Hein ? Là, on n'a pas besoin de 289 à minima députés.
Donc les abstentionnistes auraient un poids.
Quelque part, voix au chapitre, même si c'est paradoxal. Mm-hmm.
Alors là encore, ce serait la première étape. Le 8 juin, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés présents qui votent pour
cette proposition. Imaginons, c'est peut-être optimiste, mais imaginons. C'est optimiste, mais c'est pas improbable. Alors le Parlement compte deux assemblées, hein. C'est un Parlement bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout à fait normalement, une fois adopté, il y a ce qu'on appelle une navelle, c'est-à-dire que le texte est transmis.
Au Sénat.
Il transmet donc à ce qu'on appelle la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Bon, le Sénat. Là, on a vu que le projet de loi, la seule assemblée qui est votée, c'est le Sénat. Bon, puis vu la composition du Sénat, il n'y avait pas photo. Et puis, d'autant plus que les sénateurs LR, ils sont beaucoup plus disciplinés que les députés LR, qui se sont divisés, avec en particulier un député devenu médiatique, Aurélien Pradier, qui a été d'ailleurs évincé de son poste de vice-président LR, par Éric Ciotti, sympathique camarade progressiste. Bon, donc c'est transmis au Sénat. Bah, le Sénat, là...
Il
n'y a pas besoin d'être grand clair, il va rejeter. Mm-hmm. Bon.
Là, il n'y a pas de débat possible.
Il n'y a pas de débat. Bon, là, il va rejeter, puis dans la logique politique, ça se comprend tout à fait, hein, il faut être démocrate. Ok. Alors, à un moment donné, quand il y a une discordance entre les deux assemblées, il faut bien trancher. Hein. Donc, il va y avoir, normalement, il y a une navette parlementaire, aller-retour, bon. Il n'y a pas de conciliation entre les deux. Les positions seraient inconciliables. Donc il y a ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui, comme son nom l'indique, est composée à parité de quelques députés, quelques sénateurs. Ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Bon. Si ça avait été un projet de loi, il faut distinguer une proposition d'un projet de loi. Le projet de loi est d'initiative gouvernementale, enfin du Premier ministre, et la proposition de loi est d'initiative parlementaire. Un ou plusieurs parlementaires, députés ou sénateurs, peu importe. Bon. Si ça avait été un projet de loi, le gouvernement a la possibilité de mettre les deux d'accord en donnant dernier mot à l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée nationale? Parce que ses membres sont plus légitimes, étant entendu qu'ils sont élus au suffrage universel direct.
Donc le gouvernement a ce pouvoir de dire « on donne le dernier mot à l'Assemblée ».
Absolument.
Là, il ne le fera pas.
C'est pas dans son intérêt. C'est absolument pas dans son intérêt, donc voilà. C'est pour ça que...
Donc qu'est-ce qui se passerait
Je veux dire intérêt politique, mais pas intérêt juridique. Intérêt politique, ça permet de continuer la mobilisation sociale. Parce que ça sera, tu l'as dit, j'ai oublié la date.
Le 8 juin.
Le 8 juin.
Il y aura une journée de mobilisation le 6 juin annoncée par l'intersyndicale.
L'avant-veille, c'est évidemment fait, c'est pas un hasard. Et c'est pour continuer la mobilisation, parce qu'on sait très bien que la proposition de loi Liotte, si tant est qu'elle soit adoptée par l'Assemblée nationale, dans des conditions différentes, cette fois-ci, il n'y a plus de majorité renforcée comme pour. Le 49.3, et donc la motion de censure en réponse, c'est la ligne 2, c'est la ligne antérieure. Et donc ça ne passerait pas au Sénat, le gouvernement n'a pas du tout intérêt à donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.
Donc c'est le Sénat qui aurait le dernier mot.
Donc de facto, allez. Voilà. Maintenant, l'enjeu, il est politique, c'est-à-dire, est-ce que la mobilisation sociale va continuer? Est-ce que l'intersyndicale, je suis très satisfait de voir que, pour l'instant, en tous les cas, il reste solidaire, et qu'il y a en plus une recrudescence de l'adhésion aux deux grandes centrales que sont la CFDT et la CGT, de dizaines de milliers d'adhérents supplémentaires. Maintenant, on va voir. Mais j'aurais beaucoup espéré du RIP, même si, encore une fois, c'est une usine à gaz, mais ça permet de continuer le débat, de harceler le gouvernement de façon tout à fait démocratique.
Alors, c'est très technique tout ça, mais toi qui connais bien ça, tout ça, est-ce que le droit, tous ces outils-là, ça n'est que des outils qui permettent derrière de faire de la politique, de faire des mobilisations, etc. Comme on le voit que le constitutionnel utilise des outils de droit pour faire de la politique finalement derrière. Ou est-ce qu'il y a des outils de droit qui peuvent en eux-mêmes avoir un poids politique? Alors en France, on a l'impression pas trop. Est-ce que c'est plus le cas en Italie, en Allemagne, où il y a des garde-fous, des systèmes, comme on dit aux États-Unis aussi, de check and balances, de contrepoids pour, à chaque fois que quelqu'un a trop de pouvoir, le contrebalancer derrière. Comment t'analyses tout ça?
Alors le constitutionnel, bon, en tant que contre-pouvoir, c'est léger quand même, hein, on vient de le voir. Dans le contexte de la crise sanitaire et du coronavirus, il y a une décision sur une loi organique, je ne vais pas entrer dans le fond, mais une loi organique, là, fait l'objet d'une procédure spécifique. Vu l'importance, puisqu'elle est supérieure hiérarchiquement à la loi ordinaire, il faut que la navette, les sénateurs, par hypothèse, aient le temps de réfléchir. Donc la navette, elle doit, si je me souviens bien, le texte ne peut pas être transmis au moins une semaine. Il doit y avoir un délai de latence d'une semaine. Bon, ça a été fait deux jours après. Qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel? Il ressuscite une vieille jurisprudence d'après Première Guerre mondiale du Conseil d'État. Alors que là, il n'y a pas lieu à interprétation. L'article de la Constitution est clair, c'est une semaine. Il n'y a pas à chinoiser, il n'y a pas problème d'interprétation. Eh bien, il dit non, circonstances exceptionnelles, donc non, c'est OK, on avalise. Mmh. Voilà. Parce que urgence, parce que contexte sanitaire, parce que crise sanitaire, etc. Mmh. etc. Mmh. À un moment donné. Et là, je veux dire, le plus, je ne trouve pas le terme, le plus déférent de mes collègues en ce qu'on appelle la doctrine, a du mal à défendre cette décision. Là, je vais organiser une table ronde à l'université avec une collègue que j'aime beaucoup, italienne. Moi, je vais faire une sorte de réquisitoire. Elle, c'est un jeu de rôle, alors qu'elle est complètement d'accord avec moi. Elle va s'essayer à faire l'avocate de la défense. Elle a écrit un très beau papier dans un blog universitaire italien pour expliquer grosso modo ce que je viens d'expliquer, en disant le Conseil constitutionnel, il avait l'occasion d'être créatif et de se comporter en véritable juridiction constitutionnelle. Mmh.
Franchement, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, ce Gide, si je me rappelle bien son prénom, quand il dit qu'il ne fait aucune confiance à ces vieux...
Peut-être ces bandes de vieilles peaux.
Vieilles peaux, pour ne pas dire vieux, c'est point de suspension. Bon, le propos est, comment dire, est truculent. Je ne le partage pas sur la forme, bien sûr. Quoi qu'il me fasse sourire. Mais vox populi, vox dei. À un moment donné, la population se dit, sans être juriste, mais en plus, je veux dire... on sait d'avance ce que le Conseil constitutionnel va dire.
Ça fâche, veut dire qu'on a un système légal particulièrement faible en termes de contre-pouvoir en France.
Alors, contrairement à certains, je dis pas que ce n'est pas une démocratie, mais je dis que cette Constitution faite pour un seul homme, pour le général de Gaulle, je veux dire, au niveau du déséquilibre qu'on reprochait à la 3e et 4e République à l'avantage du Parlement au détriment de l'exécutif, certains dans la doctrine disent rééquilibrage. Non, déséquilibre inversé. Il y a trop de pouvoir. Le président de la République est le chef d'État dans le monde démocratique qui a, sur le papier, la puissance économique n'est pas le même, qui a le plus de pouvoir. Il a beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis, dans un régime qui n'est pas le même. C'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel. Mais c'est très inquiétant qu'un seul homme, un seul jeune homme, en l'occurrence, puisse décider de tout. Et juste un dernier point par rapport à la crise sanitaire, qu'il utilise le Conseil de défense, où il y a un total secret, parce que normalement, il y a des PV qui sont rendus publics. Quand il y a une réunion du Conseil des ministres, ça, franchement, ça devient, et puis beaucoup d'hommes politiques de tous bords, ça a commencé par Jean-Luc Mélenchon, mais ça a été repris par d'autres, on dit, mais c'est assez scandaleux quand même, c'est assez scandaleux, il y a une opacité.
Merci beaucoup, Julien Giulicelli, pour toutes ces précisions techniques juridiques. Je rappelle que tu es maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux et qu'on peut réentendre une interview de toi avec André Rosevec dans Des gens qui cherchent en podcast sur le site de La Clé des Ondes.
C'est gentil.